Deuxième émission autour du CMCC, Centre méditerranéen de la création cinématographique, fondé par le cinéaste René Alliot en 1978. Aujourd'hui, nous sommes en présence du cinéaste Alain Huguetto. La semaine dernière, nous étions avec Jacques Allaire, Jean-Pierre Daniel, Jacques Allaire, Jean-Pierre Daniel et Thérèse Consolo. Nous avons abordé le CMCC d'un point de vue politique, administratif, l'histoire du CMCC. Et aujourd'hui, on voulait aborder le CMCC de l'intérieur.
Des professionnels,
pour commencer, un entretien que Fabrice a fait avec Bernard Veza, qui a aussi traversé l'expérience du CMCC.
Centre culturel connu Cramer à Font-Blanche, et c'était des gens qui étaient passionnants au point de vue du cinéma, quoi. Et puis les gens qui l'entouraient, moi je me souviens d'Alain Fraud, de Faucon, des gens comme ça qui étaient très jeunes à l'époque et qui étaient autour de Font-Blanche. Il y avait quand même il m'a semblé, peut-être que je me trompe complètement, mais il y avait une ferveur autour du concept de cinéma. C'est-à-dire le cinéma en tant que moyen pour agir. Après, le reste, agir pour qui, pourquoi, comment? C'est sûr que les politiques de l'époque, qui sont d'ailleurs souvent toujours en place, avaient l'intention de récupérer cet énorme domaine avec l'impact qu'il avait. Parce qu'il était en relation quand même avec plein de centres de création du cinéma, entre la Bretagne, tout ça. Je veux dire qu'il y avait quand même beaucoup de communication avec des jeunes metteurs en scène, enfin un courant de cinéma au moins. Toutes les rencontres qu'il y avait avec certains cinéastes, elles étaient orientées dans le sens du rapport public, mais hélas, ils ne venaient surtout que des professionnels ou de ceux qui aspiraient à être des professionnels. Centre culturel, rencontre, diffusion, machin, mais qu'un vrai rapport public, et sinon il aurait été certainement beaucoup plus défendu, puisqu'il n'a pas été vraiment, il n'y a pas eu il y avait trop peu de personnes qui étaient autour du concept, quoi, comme ce dont tu as parlé là, que Jacques Allaire, tout ça. Ça c'est des gens qui connaissent profondément, qui ont connu profondément le système dans lequel c'était installé.
Et donc, à vous de jouer. Lo, Fab, Alain, c'est à vous.
Oui, bonjour à tous. On est content de reprendre cette émission sur le CMCC. Alors, on est effectivement super content d'accueillir Alain Huguetto, cinéaste dont on a entendu parler depuis longtemps à propos du Centre méditerranéen de création cinématographique. Donc c'est vrai que sur la première émission, on était plutôt sur un aspect, un petit peu politique de cette histoire, pour essayer de retracer un peu l'importance du CMCC, comment il s'est terminé aussi. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse un petit peu plus avec la présence d'Alain Huguetto, c'est de savoir comment ça se passait à l'époque pour des cinéastes, ce centre de création cinématographique. Donc première question, Alain, tu es rentré comment au CMCC et tu faisais quoi à l'époque? Est-ce que tu étais un tout jeune cinéaste ou tu avais déjà travaillé depuis un moment dans le cinéma?
Oh non, j'avais fait des films à Super 8 et je les ai montrés à René et il a trouvé ça intéressant. Donc il était en train de tourner le matelot en retour à Marseille. Et il m'a demandé de faire de la figuration. Première relation. Et donc il m'a fait jouer le rôle d'un docker. Et j'étais au bord d'une caisse. Et en face de moi arrivaient Ralph Vallon et Andrea Ferreol. Et donc il s'engueulait comme du poisson pourri. Et quand Andrea arrivait vers moi, il me dit « Alors c'était bien ?» Et du coup je me dis « Peut-être les acteurs, c'est pas mon truc. » Et donc j'ai continué ce que je faisais. Je faisais du travail qui est plutôt plasticien. Et donc je travaillais à la pâte à modeler et je faisais des films. J'en avais fait un justement en adaptant une bande dessinée de Sampé. Et puis un autre qui était un geste artistique un peu plus original, disons. Et j'avais montré ça à René, il m'avait dit « ça, il faut vraiment que tu le fasses ». Et donc j'avais proposé le projet au groupe de recherche des essais cinématographiques qui m'avait donné leur accord. Et je suis venu le tourner à Fontblanche, au centre de René. Et donc, il me suivait tous les jours, on se voyait tous les jours, il discutait, il me disait « Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Qu'est-ce que t'en penses ?» Ça a été un peu... c'est mon père de cinéma, en fait. Hein.
D'accord. Alors, si tu veux bien, ce qui serait intéressant, c'est de savoir un petit peu, à l'époque, qu'est-ce qui se passait dans la région. Parce qu'il y avait, franchement, pour les cinéastes de la région, pour la Côte d'Azur, pas grand-chose sous la main. Pour pouvoir faire du cinéma, je crois que c'était un peu la nécessité de monter pour tous à Paris, de s'y retrouver. Là, l'idée, pour faire court un petit peu par rapport au CMCC, de rappeler ce qui s'était dit à l'émission, l'intention de René Alliot, c'était de créer en région PACA, un lieu de création cinématographique pour permettre à des jeunes cinéastes, ou moins jeunes d'ailleurs, de disposer d'un outil de création et de certains moyens pour pouvoir mener à bien leurs projets. Bon, c'était donc près de Vitrolles. Ce centre a duré de, grosso modo, de 79 à 85, un petit peu après encore, jusqu'à sa fermeture finale en 88. Quand tu as rencontré donc René Alliot, ce projet était déjà, enfin le centre était déjà ouvert. Et est-ce que pour toi ça devait être quelque chose d'important du coup ?
Ah oui, pour moi c'était important parce que d'abord c'était un monsieur qui faisait des films, qui pour moi en vivait. C'est vraiment le professionnel. Comme ce que je rêvais, quoi, faire des films en disant, ouais, ma foi, à la fois je fais des films, je remplis la marmite, c'est vraiment le truc idéal. Et puis surtout, la première chose qui m'a amené, c'est le fait qu'on puisse tous se rencontrer et qu'on puisse tous parler de ce qu'on faisait et notre démarche. Quoi. Ça, c'était important. Et déjà, au milieu de tous ces gens-là, je pense à Philippe Faucon, Alain Froh, on était tous des commençants. Il n'appelait pas ça les débutants, mais des commençants. Je trouve que c'est très beau comme terme. On était des commençants. Et puis parmi nous, il y avait Catherine Gallaudet, par exemple, qui était, elle, déjà monteuse, elle vivait de ça, quoi. Donc du coup, on disait, ouais, l'envie et tout, on était impressionnés par ça, quoi. Comment on peut vivre de ça ?
Alors, est-ce que tu peux nous dire comment était René Alliot, justement ? Alors, toi qui es arrivé donc, au CMCC, donc en ayant déjà réalisé quelques cours, tu le rencontres. Comment un jeune cinéaste qui est arrivé, qui rencontrait René Alliot, comment ça se passait, en fait ? Est-ce que c'est une histoire de rencontre, d'abord ou...
Oh, c'est, de toute façon, toutes les rencontres, il y a beaucoup d'affinités, en fait. Hein, il sentait que j'étais dans une démarche un peu particulière. Il m'a même proposé de faire écrire. Il avait plusieurs secrétaires de faire écrire mes idées. Il m'a dit, tu ne sais pas les écrire, mais tu as des bonnes idées, tu ne sais pas les écrire. Non, on avait un rapport très... naturel, quoi, de père à fils, ça fait un peu bizarre, mais bon, c'était vraiment mon père de cinéma, donc vraiment j'étais en pleine admiration. Quand j'ai eu la vieille dame indigne, je trouvais magnifique. Moi, Pierre Rivière, j'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est super beau, c'est vraiment.
Quand tu l'as rencontré, tu n'avais pas vu de film de lui avant ? Si, d'accord, ouais.
J'ai toujours été un grand cinéphile, ouais. J'ai jamais eu la mèche, le cheveu gras, mais j'ai toujours été cinéphile, j'aime beaucoup ça, ouais.
D'accord. Ouais.
Et puis, il nous confortait dans notre idée de faire du cinéma. En fait, c'est ça qui est important, en fait.
Une sorte de mise en confiance, un peu.
Oui, on arrive avec un scénario, on pensait que c'est vraiment le truc génial, ça va vraiment aller s'en sortir. Et puis, il disait, ouais, là, c'est pas trop. Il faudrait que tu le retravailles. Donc, il avait vraiment un discours de professionnel, quoi. Ouais. Ça, c'était vraiment très bien. Et puis, tout au long de son parcours. Il nous a confortés dans cette idée-là, nous faisant rencontrer des gens qui étaient bien dans le milieu. Quoi. Je pense à des scénaristes, des réalisateurs, d'autres réalisateurs, des chefs opérateurs. Et ça, c'était très bien, vraiment. Il a pensé qu'il fallait un peu plus d'outils techniques. Donc, il a fait acheter des caméras, des bandes de montage, des choses comme ça. Mais voilà. Mais, non, mais c'était vraiment.
La question qui se pose pour nous, parce que aujourd'hui, bon, faire du cinéma, ça a toujours été compliqué, on le sait. Aujourd'hui, d'autant plus, puisque les conditions aussi sont difficiles, même si du temps du CMCC, il n'y avait pas encore des aides à la production, à l'écriture, etc., qui existent aujourd'hui. Bon, nous, on se pose des questions légitimes parce que ces aides ont tendance à être plus compliquées. Alors, comment ça se passait pour vous à l'époque, en fait ? Du coup, est-ce que c'est... Il y avait quand même un lien direct avec l'industrie du cinéma ? Comment ça se passait ? C'est-à-dire qu'on pouvait rester indépendant et en même temps faire des films qu'on voulait sans une ambition, je dirais, de s'allier avec peut-être des productions, des grosses productions ou le CNC, etc. Ou alors d'emblée, c'était une volonté de René Alliot de s'inscrire dans ce rapport comme ça de cinéma avec le... à la fois de l'industrie, et puis où c'était naturel comme ça avec la télévision, etc. Comment ça se passait ?
Non, mais René, ça a toujours été quelqu'un d'une grande tolérance, en fait. Hein. Je vois, moi, j'ai fait un film d'animation. Alain Froh, il faisait un film, quoi, on appelait ça un film sale, parce que c'était un peu nos briquets de broc. Mais chacun avait son style, en fait, hein, ce bien ou pas bien, et donc René nous aidait dans ce style-là, quoi. Mais c'était pas... comment on peut dire ça ? C'est quelqu'un qui était très accueillant et bon, il n'aimait pas trop qu'on le critique déjà. Bon,
c'est-à-dire
ses scénarios, il ne fallait pas trop appuyer sur les endroits qui...
Donc il avait une personnalité quand même assez...
Ah oui, oui.
Quand tu dis qu'il n'aimait pas qu'on le critique, ça veut dire que quel rapport enfin,
C'est qu'on était des minots, quoi. Alors du coup, je me rappelle sur leur esquisse, par exemple, j'étais pas d'accord sur le fait qu'il ait mélangé fiction et documentaire et fiction. Mais c'est idiot, hein, maintenant je me rends compte, je me dis, quelle prétention. Et donc il me dit, mais pourquoi je ferais pas ça ? Mais quand même, c'est un peu bizarre, on n'entend pas bien et tout. Il dit, mais quand même. Et donc voilà, c'est des relations... professionnel en fait, voilà, c'était juste comment on perçoit, comment on est perçu et qu'est-ce que je raconte comme histoire, où elle va ton histoire, est-ce que tu la développes comme il faut.
Mais il arrivait à prendre du. Il faisait... Parce que j'arrive pas à me rendre compte du nombre de réalisateurs qui y passaient ou qui étaient présents. Comment il prenait du temps avec toi, ensuite du temps avec un autre réalisateur, et c'était ça un peu ce qu'il faisait au quotidien ?
Ben moi, j'y étais tous les jours. Hein, du coup,
ah, tu étais tous les jours, toi ?
Ben, j'ai de l'animation, donc tous les jours, j'ai mon machin.
Eh oui,
dernier moment, j'étais un peu perdu. Alors, je demandais à Thérèse, viens voir, il monte ou il descend, là, il monte ou il descend.
D'accord, l'échelle, c'est ça ?
Oui, c'est l'échelle.
Voilà, ouais.
Donc, après, chacun a eu un rapport très particulier avec René, quoi. C'est plus Bernard qu'on a entendu, Bernard Vézin, il était plus sur un rapport de professionnel, quoi. Comment faire ce film-là, comment rentrer dans le budget. Alors que pour nous, c'était plus... on pouvait faire, quoi.
Mmh.
On avait envie de dire ça, bah fais-le.
Ouais, d'accord. Oui, il y avait en fonction de chaque projet qui était plus ou moins dans une économie ou pas.
Oui, et puis au milieu, il y avait un chef opérateur qui s'appelait Jean-Claude Bois. De temps en temps, il venait, il nous réglait un peu les lumières. Il y a un monteur qui passait, il dit ouais, là, tu es un peu long, tu pourrais couper là.
D'accord. Parce qu'il y avait quoi comme installation, t'avais concrètement
Concrètement, il y avait une entrée. À gauche, il y avait la cuisine. À côté, la salle de projection. Un peu plus loin encore, une table de montage.
Et moi, 16 mm.
Ouais, une Atlas.
D'accord.
Et puis encore au fond, j'avais un petit studio grand comme ça, en fait.
D'accord.
Mes machins.
Il y avait deux espaces de travail. Grosso modo.
Ça, c'est des espaces de travail cinéma. Et ensuite, il y avait des bureaux. Il y avait des bureaux où il y avait Thérèse, René.
Ouais, les bureaux administratifs.
On allait voir Thérèse. Tu veux pas nous taper ça ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc on
est... Ah oui, c'était la machine
à photocopier. Thérèse qui nous accueillait. C'était vraiment des grands moments. Ouais. Thérèse, on est un peu coincé là. Tu peux pas nous.
Alors, Jacques, il faudrait que tu. Surf autour du micro comme ça pour rester bien, ouais. Pour que tout le monde t'entende. Voilà, c'est pas évident, mais bon.
Et il y avait aussi des conférences et des séminaires avec d'autres cinéastes qui passaient, comme on a vu des archives avec Robert Kramer, ouais. Jean-Luc Godard, on a vu Renaud Victor.
Tu les as faites ces moments-là, ouais.
Oui. Jamais on n'aurait loupé ça.
Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Comment ça se passe dérouler sur combien de temps quels sont tes souvenirs
La rencontre avec Orange, par exemple, ça a duré une demi-journée. Même une journée, parce qu'on est allé manger après. Puis après, on posait des questions. En fonction de ce qu'il avait fait, on lui posait des questions, il répondait. On proposait des projets en disant, voilà, je vais faire ça. Alors, des fois, il nous regardait où il va. Et puis, voilà, c'est des relations... comment on peut dire ça je comprends pas le.
Sur les séminaires en fait,
oui.
Auxquels vous avez. Quand il invitait d'autres cinéastes de l'extérieur.
Il y avait des thèmes avec des thèmes, alors il développait, et ensuite il y avait tout un tas de gens autour, et on rencontrait Pascal Canet, tout un tas de
ouais,
gens.
Des thèmes, écriture, production, son.
Son, scénario.
Et pour vous, c'était une sorte de formation, ou c'était pour rencontrer des professionnels, ou c'était.
C'était du pain béni, quoi. On entendait parler du cinéma par des gens qui en vivaient. C'était un peu...
Parce que vous aviez, vous aviez quel âge à l'époque?
25 ans. Parce que... dans la tête, plus bas encore.
Non, toujours qu'on est. Mais parce qu'à cette époque-là, donc c'est les années 80, en région, c'est quoi le cinéma? Ou qu'est-ce qu'on peut dire sur le cinéma en région dans les années 80? Alors, c'est qu'est-ce qui...
La seule source de financement qu'il y avait, c'était l'office de la culture, un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement le nom, mais c'était, il n'y avait que ça. Et donc, on avait tous des projets en disant...
Il y avait des boîtes de production, déjà
Oui, il y avait 13 productions, déjà, fait que il s'appelait Vidéo 13, mais il allait commencer avec René, il y avait qui encore Non, puis pour l'instant, les producteurs qu'il a menés, je me rappelle, il avait amené Nedjar qui était venu faire une conférence. Et c'était magique, quoi. C'est vraiment, on se dit, voilà, un producteur, c'est un mec qui paye et tout ça. Ouais. Que c'est pas du tout ça, quoi. Voilà, les souvenirs que j'ai, moi, du CMCC, c'est vraiment des relations. Je me dis, mais ce serait aujourd'hui, j'aurais des vraies questions à poser. Alors que, à cette époque-là, c'est.
Oui, tu veux dire que tu regardais ça avec des yeux presque de pas d'enfant, mais bon, je veux dire, de admiratif. Et, Donc, t'étais pas. Tu buvais ce qui se ressentait.
C'est ça, puis il n'y avait pas que des. Il y avait Tara Benjelloun, je me rappelle, Claude Carrière, des gens qui ont à voir avec le cinéma, mais qui ne sont pas directement liés. Il n'y avait pas que des techniciens, il y avait aussi.
Ouais, ça ratissait large.
Oui, ça ratissait large.
Ouais. Ouais, d'accord.
Mais tout ça sur René, quoi, qui est. Ouais. C'est ça, il met ça en place, il était vraiment... et il a vraiment très envie de nous aider à faire des films, trouver du financement pour faire des films. Et c'est là qu'il a poussé, quoi, en disant il faut à tout point.
Oui, parce qu'il y en a beaucoup de films qui se sont faits, quand on regarde la filmographie, en 5 ans, c'est impressionnant. Il y a peut-être 60 courts-métrages, une dizaine de moyens-métrages, puis 2-3 longs-métrages, je crois.
Oui, oui, puis ça tournait, voilà, on ne cherchait pas... comment dire... On avait l'avantage de ne pas connaître l'industrie, en fait.
D'accord. Ouais.
Donc on se disait, bon, il faut faire des films, s'ils sont bons, ils vont passer. Donc on tournait.
Parce que toi, tes premiers films, ils ont tourné comment alors ou comment...
Non, moi j'ai commencé en Super 8, moi. J'avais fait déjà des films en Super 8.
Mais tes premiers films au CMCC, ils ont eu quoi comme vie
L'échelle, il a été diffusé sur TF1 et j'ai été obligé de le refuser à Jacques Demy en plus.
D'accord.
Parce que c'est le Grec qui l'avait produit, donc c'était pas dans le cadre commercial, c'est un cadre culturel. Et je pouvais le vendre qu'à la télé, quoi.
D'accord. Et il a eu une vie en festival, un peu ou...
Oui, je ne me rappelle plus où, mais il a été nommé au César. Il a eu aussi à Cannes. Il était à Perspective du cinéma français à Cannes.
D'accord.
Il a été nommé pour les Césars.
Ah oui, il a eu une petite vie, alors. Ouais,
il est passé devant Rougemini de Robert Guédiguian à Cannes.
D'accord.
Non, enfin, bon, c'est des souvenirs un peu anciens, ça, mais bon. Alors,
on parle pas mal de la vie à l'intérieur du CMCC, qui était quelque chose d'assez familial, on va dire. De temps en temps, l'été, etc., vous profitiez d'un lieu quand même assez ouvert sur l'extérieur. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, de cette, toi qui y allais tous les jours, de cette vie, de ces échanges entre cinéastes? Est-ce que c'était si ouvert que ça?
C'était très ouvert, oui. Ben, je vais vous raconter une anecdote. Par exemple, c'est à un moment, Paul Sadoun avait un projet. Il voulait faire un documentaire sur une vierge qui est transportée par des pieds noirs à Montpellier ou à Nîmes. Je ne sais pas où c'était. Enfin, et donc, on s'était tous réunis dans le pré avec René. Il disait, voilà, je veux faire ça. C'est un film que je voudrais faire comme ça. Et tout. Bon, ben, OK, tout ça. Et qu'est-ce qu'il te faut? Ben, des caméras. Quelqu'un a une caméra? Et toi, tu as une caméra. Ben, toi, tu peux venir. Toi, tu viens. Toi, tu feras des gros plans. Toi, des plans généraux. Voilà, puis c'est parti comme ça. Puis René, il dit, ben, nous, on a de la pellicule, on peut te filer la pellicule. Voilà.
C'était
un film. Je ne sais pas quel souvenir il en a, Paul. Je n'en ai pas reparlé avec lui.
D'accord, c'est très simple, quoi. Ça se faisait assez simplement. Ouais. Ouais, mais c'est bien, ouais, parce que... En général, le cinéma, c'est quand même lourd. C'est rarement simple.
Ah, c'est toujours très lourd.
Ouais. Là, il y avait une possibilité de faire les choses simplement, quoi.
Oui, c'était... oui, il y avait un chef opérateur qui s'appelait Jean-Claude Bois, donc il nous parlait un peu de lumière. Donc lui, il était là tous les jours, donc il réglait un peu le matériel, il nous donnait des conseils. On était suivi, voilà, il y avait un espèce d'appui.
Alors, Alain, au niveau des techniciens qui pouvaient bosser sur les films, etc., comment ça se passait ? Par exemple, un commençant arrivait avec un projet, par exemple, de film, une fiction, par exemple, un court-métrage.
Ouais.
Comment se passait sa mise en production ? Bon, d'abord, peut-être, qui lisait ou qui entendait le projet ? Est-ce qu'il y avait juste René Aliocchi ou alors il y avait plusieurs personnes qui écoutaient le commençant ? Comment ça se passait pour ce...
Non, ça se passait en direct avec René, hein. au moins sur la base de l'écriture, mais comme par rapport à lui, on est vraiment des rails du tout. Il écrit vachement bien, il parlait vachement bien, il écrivait très très bien aussi, vraiment c'est un modèle. Après, comment ça se passait par exemple, sur Agégé Mécano, qui a été tourné par l'Infro, il avait une équipe, alors du coup, il y avait Pierre Berthelot, qui est générique vapeur, il faisait le son. comment il s'appelait, Patrick Oudot, il faisait le montage, et en même temps, comme il manquait de personnel, il faisait un peu tout, quoi. Ils amenaient un peu tout ça, quoi. Donc, moi, j'ai eu des problèmes de montage, j'ai dit, tiens, Patrick, tu veux pas regarder? Il avait regardé, je me rappelle, il commençait à coller. C'était plus, on est les mains dans le cambouis, quoi. Voilà, après, qu'est-ce que ça a donné? C'était plus, on était porté par du désir, quoi. On avait tous du désir, le désir de faire un film et de l'aboutir, de faire le mieux possible.
À tel point que des gens qui n'étaient pas cinéastes ou qui ne faisaient pas de cinéma, on recevait Thérèse Consolo la dernière fois, donc ici. C'était quand même aussi une pièce maîtresse de la mise en place, du déroulement, du bon déroulement du CMCC, des liens entre les cinéastes et puis les possibles.
Oui, parce qu'en fait, à un moment, ça a évolué un peu. C'est-à-dire qu'il y avait des affinités marchaient aussi. Alors du coup, je voulais voir René, elle me disait, bon, ouais, pas de problème, il va venir à tel jour, ou il va rester là. Puis il y en a d'autres, elles faisaient le tri, quoi, parce que c'était un peu compliqué, quoi. Mais bon, c'était pas ça avancé. C'est une relation assez normale, en fait. Il y avait pas de...
Donc le CMCC, ça représente donc pour toi, j'imagine, quand même un bout de l'histoire du cinéma. Nous, notre intérêt de faire cette émission, en fait, sur le CMCC en tant que jeune cinéaste, c'est ce qu'on expliquait aussi à Jacques Heller, bien entendu, et Thérèse Consolo quand on les a rencontrés. C'est de cette histoire aujourd'hui réactualisée, c'est-à-dire... C'est quand même un modèle aussi de ce qui a pu se générer en matière de création cinématographique en région. Depuis, il n'y a pas beaucoup d'exemples comparables au CMCC. Il y en a, mais très peu. Est-ce que tu restes un peu, nostalgique de cette époque-là ? J'imagine un petit peu quand même, parce que c'est une partie de vie quand même. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ce qui se fait en matière de cinéma par rapport à ce qui se faisait
Attends, j'aurais une question avant. C'est toi, quand ça s'est fini cette expérience, qu'est-ce qui s'est passé pour la plupart des cinéastes après la fin du CMCC?
Ils nous avaient montré le parcours du combattant, que c'est de faire un film. Donc on savait tous ce qu'il fallait faire, quoi. Et puis en plus, on n'était pas liés au CMCC. Le CMCC, c'est une espèce de plaque tournante où on venait avec nos projets. On était tous une espèce d'auteur, quoi. Je me souviens de Philippe Faucon avec son scénario, moi avec mon machin. On avait tous des envies, quoi. Et puis il y en a d'autres qui ont suivi d'autres chemins. Mais j'en suis pas nostalgique. C'était un moment, quoi. Après, il y a eu d'autres moments de cinéma qui étaient très, très chouettes, quoi. Mais j'en suis pas nostalgique. Moi, c'est surtout le nostalgique de René. Je vais sortir un film, j'aurais bien aimé qu'il le voit, quoi. Parce qu'il a eu une critique. Il était pas mal en critique.
Ouais, il était.
Ouais, il était vachement fin. Un praticien, quoi. Voilà.
Un homme de terrain. Ouais.
Ouais, de flagornerie. Il touchait juste. Non, c'est vraiment bien.
Comment ça se passait, justement, dans la fabrication des films? Il y avait des projections de travail
Oui, de temps en temps, oui. Mais c'était un peu délicat, parce qu'il y en a certains qui voulaient montrer leur rush, puis d'autres non, en fait. Alors ça, c'était pas... Il y avait une salle de projection, alors du coup, quelqu'un disait, tiens, je vais faire une projection de Agégé Mécano, par exemple, je fais une projection d'un quart d'heure. Alors on est arrivé, Thérèse, Jacques...
Ça c'était très free, c'est-à-dire c'était au bon vouloir de l'auteur qui avait envie à un moment donné de... Oui. Jacques, plutôt René Alliot, n'était pas sans arrêt en train d'essayer de stimuler les auteurs.
Non.
Il vous laissait très libre en fait dans votre travail.
Ah oui, de toute façon, on est des clowns, hein, si on arrête de faire rire, ça emmerde personne, quoi.
D'accord. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'il poussait, enfin, il n'était pas sans arrêt derrière pour essayer de tirer les films, de les pousser en production. Comment ça se passait ?
Non, il
était assez.
Non, il n'avait pas de production, en fait. Ça, c'est, ouais. Quand on bosse à la 3, ou on bosse pour un producteur avec un sujet déterminé, un budget calé, il y a forcément quelqu'un derrière. Là, il n'y avait pas tout ça, quoi. C'était juste un jet comme ça. On se disait, tiens. J'ai envie de faire un film là-dessus, bon, mais vas-y, fais-le. Nous, on peut te payer la pellicule, tu auras la caméra. Éventuellement, tu auras même le chef-op. Waouh!
Est-ce que tu imagines ça possible aujourd'hui ou pas, une expérience comme le CMCC, dans le contexte d'aujourd'hui?
Il faudrait rêver, ça. Hein, mais... Ouais, pourquoi pas. Ouais. Mmh. Ouais, il faut quelqu'un qui. Je pense qu'il faut avoir un autre René, quoi. Hein, c'est un peu ça. Hein, ça venait surtout de lui, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible ? C'est-à-dire que tout le matériel a changé, quoi. Maintenant on n'a plus avec des petites caméras, à la limite on peut.
Ouais, c'est plus là, ouais.
Qui peut faire un film, quoi.
C'est ouais, parce qu'à l'époque il n'y avait pas la vidéo, quoi. Ça commençait à peine la vidéo. Ouais,
et puis la vidéo c'était l'humatif.
Ouais, t'avais.
C'était un peu.
La vidéo était plus lourde que l'argentique, quoi.
Ouais, puis la vidéo c'est un peu.
Ouais, c'était un peu has-been. Ouais, c'était pas has-been puisque ça commençait, mais c'était.
Non, ça commençait à peine. Mais c'était pas, oui, c'était pas quelque chose qui attirait.
C'était pas très noble, quoi.
Et puis là, c'était la pellicule, il fallait aller au labo, la faire développer, monter le son, couper les trucs. C'est notre. Alors, les chutiers, il fallait ranger les chutiers, passer des heures à chercher le petit bout qui manque dans le bac. Aujourd'hui, c'est plus ça, quoi. On n'est plus dans cette.
Il n'y avait pas, par contre, de laboratoire de développement.
Ah non.
Là, vous envoyez vos films où ça, alors ? C'était où ? À Paris ?
Il avait des prix à Éclair, il me semble.
À Éclair ?
À force, il avait réussi à avoir. Mais je crois que c'est Jacques qui a dû s'occuper de ça, Jacques Allaire, en fait.
Est-ce que, Alain, tu peux nous citer un peu les noms des réalisateurs qui étaient là autour de toi ? Des jeunes comme toi, ou moins jeunes qui...
Alain Fro, qui a fait Agégué Mécano, qui est un peu disparu. Philippe Faucon, qui a fait sept longs-métrages.
Qui continue à sortir en salle, ses
bien
films.
Sûr, oui. Vincent Matorana, qui a plus fait des téléfilms, qui a d'autres, mais il y a un paquet. J'espère que je ne vais pas en oublier quelques-uns. Catherine Gallaudet.
Il y en a beaucoup.
Hein. Et qu'est-ce qui... C'était quoi le point commun entre tous ces réalisateurs ? Vous étiez de la région ? Ou qu'est-ce qui vous a amené là, en fait ? C'était ouvert à tout le monde ? Ou il y avait une espèce de... C'était René Alliot qui faisait la connexion entre les différentes personnes ?
Non. La connexion, elle s'est fait quasiment automatiquement, parce qu'on savait qu'il y avait ce lieu, donc on y allait.
Parce que vous étiez curieux ? Vous vouliez voir ?
Oui, parce qu'on avait un projet ou une envie particulière. Donc avec cette envie-là, on allait le voir et... Souvent, où il n'était pas là, ou en retard, où il y avait je sais pas quoi, et où on était bien en avance pour pas louper le truc. Et donc on se retrouvait tous avec Philippe Faucon, avec son scénario, moi avec mon machin.
Il fallait être de la région pour venir, ou est-ce qu'il y avait d'autres ?
Non. Tu fais avoir un projet, quoi.
Tout le monde était accepté, ou il y avait une sélection quand même ?
Non, il n'y a pas de sélection. Hein. On n'était pas tant que ça, en fait. Hein. C'est...
Et comment ça se fait que ça n'a pas attiré plus de monde, du coup ?
Bon, là, il faudra que je fasse. Prenons le cas de Guédiguian, par exemple. Lui, il est jamais venu dans ce truc-là, parce qu'en fait, il est plus intelligent. Moi, j'assume, il est beaucoup plus intelligent que nous. C'est-à-dire qu'il a monté sa boîte de prod, il a essayé de faire ça. Et le CMGC, il y est passé parce qu'il y avait ça, donc il est venu voir. Mais lui, il a fait.
Mais il avait quel âge au moment du CMCC ?
Le dernier été, c'est que je ne sais même pas quel âge il a.
Il a peut-être quoi, là, à peine 30 ans, non ?
Oui, il devait avoir 30 ans, 30, 32, un truc comme ça, quoi. Il avait déjà son équipe. Il n'y avait pas encore Darousset, mais il est arrivé au troisième film. Et dernier été, il le préparait. Donc il est venu, je me rappelle, il était passé une fois avec toute son équipe. Mais lui, il n'était pas dans cette volonté d'échange, quoi. Il était dans une logique beaucoup plus professionnelle, quoi, en se disant, bah, moi, j'ai besoin de producteurs. Donc il a monté sa boîte avec plusieurs producteurs, comme il a fait avec Agathe Film, quoi.
Mais du coup, il est monté à Paris, alors ?
Ouais. Ça, oui.
Alors que l'idée du CMCC, c'était que les cinéastes en région restent en région.
Oui. Mais je pense que oui. Alors, du coup, avec le portable, Internet, ça gomme un peu les distances, mais ça reste. On est un peu le tiers-monde ici. Au niveau du cinéma, c'est. Est-ce qu'il ne faut pas faire un film ici ?
Il y avait, Alain, un peu cette conscience, justement, pour les cinéastes, que quelque chose se passait en région et donc il y avait quelque chose à donner en échange au CMCC. J'allais dire, tu vois, dans ce dit collectif. Quand David parle effectivement de l'expérience de Guédiguian, que tu as parlé aussi, est-ce que bon, vous étiez très jeune, peut-être que je ne sais pas si vous aviez cette idée-là. Mais est-ce que René Alliot faisait passer cette idée de pas que le CMCC c'était pas juste un endroit de service, mais aussi un endroit d'échange, et donc du coup il y avait une idée de collectif.
Ça c'est un peu le milieu du film d'auteur, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un projet, c'est un peu l'auteur maudit. Là. Il va chercher du financement, des outils, des aides un peu partout, quoi. Mais dans ce cas de figure, en fait, moi, j'étais plus porté par le fait qu'il fallait que je l'aie pas, quoi. Parce que chaque fois, il me dit, ah, c'est bien ce que tu fais, là, montre-moi autre chose. Du coup, j'essayais d'épater, quoi. En fait, c'était un peu, c'était ça qui me, l'aiguillon, c'est ça, en fait. C'était plus ça.
Parce que t'as fait combien de films là-bas, alors? Tu dis que t'es resté tout le long des 5 ans, tu étais dans une...
Non. Pour l'échelle, j'y suis resté quasiment tout le temps. Ensuite, j'ai tourné La Fleur, j'étais déjà à Aix. J'allais à Aix, mais je venais au colloque et tout ça. Et après, la Boule, je l'ai tourné. Mais il m'avait montré. Après, je l'ai invité à des projections. Après, je venais voir, il me montrait mes films. Et ça coûtait trop cher, déjà, de partir d'Aix, aller
jusqu'à
Vitrolles. Ça coûtait trop cher. Donc, j'y allais pas tous les jours après, quoi.
D'accord, ok.
Mais ouais. Il me suivait, en fait. Je me rappelle La Fleur, il m'a fait une critique. J'ai encore. J'étais assis comme ça. Oh.
Ouais.
Ah ouais. C'était une très bonne idée.
Mais bon, et t'as gardé des liens après avec lui une fois que le CMC... Ouais, t'as gardé, ouais. D'accord.
Ben après, c'est quelqu'un de très attachant, en fait. C'est vraiment quelqu'un de magique, quand même. Mais je pense pas... Je pense que, à l'époque, je n'étais pas capable de lui dire ça, mais je pense qu'il n'en vivait pas, moi, du cinéma, en fait. Il faisait beaucoup de décors...
Du théâtre, plus il vivait. Oui. D'accord.
Et parce qu'à un moment, j'en ai parlé, je parlais d'Adamoff et tout ça, il m'a dit, oui, j'ai fait des décors pour lui, j'ai fait tout un tas de trucs. Et je sentais que c'est, là aussi, c'était un grand plaisir qu'il avait à travailler le décor. C'est vraiment un truc où il était vraiment dans son élément, quoi. Donc le cinéma, c'est vraiment... Il montait des coups, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui montait des coups, en fait.
Ouais.
Ça veut dire quoi, monter des coups?
Poker.
Voilà, ça peut être du poker. Mais monter un coup, ça veut dire qu'il a un scénario. Et à partir de là, il va chercher comment il va le faire. Et donc là, il m'a montré comment faire, quoi. Comment, si on te met par, on te ferme la porte, tu rentres par la fenêtre. ça, c'est vraiment René, ça. Le côté têtu, chez moi, il l'a développé, en tout cas.
Et est-ce qu'il y avait des échanges autour de la question du public, par exemple?
Non.
Non. C'était cinéma d'auteur.
Enfin... C'était un geste artistique particulier, avec voilà, chacun avec son style, en fait. Hein. Je me rappelle de Alain Froh, qui avait un style très, très particulier, quoi. On disait de trouver des phrases critiques. On disait c'est un film sale. Parce qu'en fait, il cherchait pas trop à faire des belles lumières, mais il voulait s'éclater en mettant le mec qui prenait une balle, du ketchup. C'était assez. Ouais, c'est un peu. Pas Peckinpah, mais c'est un peu. Voilà, c'est un peu. C'est son style, quoi. Tout à l'arraché, sans jamais rien préparer, tout à. En poussant les gens, alors, vers ça, il est toujours dans l'énergie, quoi.
Et les réalisateurs qui venaient, ils avaient fait une formation avant ou ils étaient autodidactes?
Tous autodidactes, hein. J'ai pas de souvenir de formation. Ouais, quelqu'un qui sort très sorti de l'IDEC, là,
si, il aurait été Jean-Pierre Daniel, non?
Bon, mais c'est pas parti.
Oui, mais Jean-Pierre Daniel,
Jean-Pierre, il sort de l'IDEC.
Mais je crois que c'est Louis Lumière, non, plutôt, qui l'a fait.
Non, c'était l'IDEC.
Ouais, je ne mettrai pas ma main au
feu. Non, c'est l'IDEC qui l'a fait, Jean-Pierre Daniel. Mais il n'est pas venu en tant que cinéaste, c'est ça qui est différent.
C'est vrai.
Il avait une autre place.
Puis Jean-Pierre, il a toujours eu un. Comment dire, c'est... Il parle bien, voilà. Nous, comme moi, vous voyez, là, je. Je possède plus le récit en image qu'en récit écrit. Quoi. Voilà. Alors que lui, il parlait très très bien, il défendait des positions. En plus, il était assez intégré au. Comment dire. Le CMCC, c'est une association qui était financée par la région, par plein d'éléments. Et lui connaissait ces circuits-là. Alors que nous, on était là comme auteurs, en disant comment on va faire, comment on peut faire un film, quoi. Et comment on peut l'aboutir, Et comment je peux en vivre, entre guillemets.
Oui, vous n'aviez pas ce regard, on va dire, extérieur, élargi, tellement vous étiez dans vos préoccupations d'auteur, quoi.
Oui. Comment faire un film, en fait, c'est un peu ça. Et c'est là que ça me manque un peu de... Voilà, on était des auteurs en région, en disant, bon, ben, y a une possibilité, pourquoi pas celle-là, on va essayer, on va aller au bout. Et donc on a fait des films comme ça, quoi. Alors que Guédiguian était plus intelligent que ça.
Pourquoi tu dis qu'il était plus intelligent, en fait?
Oui, parce qu'il fait quand même un film tous les ans.
Ouais, il a compris les règles du jeu, je pense qu'il les a appliquées tout de suite. Quoi.
Et toi, ça m'a été l'auteur maudit, avec ni un Vigo, ni...
un stache.
Oui, voilà.
Et c'est lié à quoi, à ton avis, aux questions du scénario, à la question de...
Moi, je pense que c'est lié plutôt au fait que c'est très rare qu'un ouvrier prenne une caméra. Moi, je suis un fils d'ouvrier, j'ai pris une caméra. Du coup, je suis plein de...
Tu vas pouvoir échanger avec l'eau.
Non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est clair. Déjà, t'as d'autres codes, t'as un autre langage, quoi, qui est le langage de l'outil. Et c'est vrai qu'à partir de là, la question le langage du scénario, de l'écriture, qui est nécessaire dans notre système de production, fait que...
Oui, je sais pas si c'est nécessaire, mais ça fait partie de l'outil de base. Quoi. Voilà, le premier rapport qu'on a avec un producteur, c'est à travers un écrit. Quoi.
Un écrit, moi j'ai le même problème. Je sais pas écrire, donc...
Ouais, donc René avait même proposé, il m'a dit, mais t'as des bonnes idées, marque n'importe quoi, on va le faire écrire.
C'est vrai. Ah ouais. Et ça a marché
Ouais, non.
Non.
Et Alain,
trop bête.
Du coup, qu'est-ce qui, trop toi, bête. T'a donné envie de faire des films, si t'as pas fait d'études de cinéma, si c'est que tu es allé au cinéma
Qu'est-ce qui m'a envie de te donner de faire des films? Alors, je crois que j'avais déjà une envie, mais je savais pas comment l'aboutir. J'avais envie de faire des films, je sais pas pourquoi.
Quand tu étais enfant?
Non, petit déjà.
Replongeons dans l'enfance de Alain.
Je creuse. Je vais m'allonger
peut-être.
Non, j'étais géomètre et mon premier boulot, ça a été géomètre. Et donc je suis allé sur un chantier avec une petite caméra, une simple 8. Et j'avais commencé à faire des images et à un moment, ils étaient coincés, ils voulaient des images. Et donc ils ont pris les miennes. Du coup, j'étais assez fier. Je me disais, j'aimerais bien continuer et tout. Et puis je sentais que c'est pas trop mon truc, j'étais encore trop coincé, comment on peut dire ça, très coincé en moi, quoi. Voilà, j'ai un fils d'ouvrier, il va pas discuter devant des gens, dire voilà il faut faire ça, il est un peu particulier.
Il n'est pas chef de chantier, voilà. C'est ouvrier.
J'ai commencé. Et je me rappelle plus la question. Du coup.
Mais c'est
ton désir.
Mon
désir.
Oui, vu que tu as pas fait d'études de cinéma, a priori ta famille non plus n'était pas dans le milieu du cinéma. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des films en fait?
Donc j'avais commencé donc à faire des films un peu comme ça et je suis tombé amoureuse d'une iranienne. C'est l'histoire que je raconte dans le long métrage. Je suis tombé amoureuse d'une iranienne et je suis allé en Iran à la rejoindre. C'était en époque 78-79 où j'ai vécu la révolution iranienne avec elle. Avec ce caméra super 8. Donc j'ai vu des gens mourir, j'ai vu vraiment des choses abominables. Et à un moment, il a fallu que je parte. Je suis parti, je suis rentré en France. Et en rentrant, je me suis dit, mais au moins par respect pour ces gens-là que tu as vu mourir, ou qui étaient prêts à mourir pour des idées, ou même pas des idées, ça va mourir pour mourir. Quoi. Je me suis dit, ce serait le minimum que tu ailles au bout de tes idées, que tu ailles au bout de ce que tu as envie de faire. Quoi.
Et du coup, tu as arrêté de travailler comme géomètre?
J'avais déjà arrêté, oui.
Et tu avais arrêté pourquoi? Parce que...
Parce que tu voulais faire des films.
Je m'emmerdais en fait. Je trouvais ça chiant. Et donc quand je suis pas motivé, c'est vraiment un boulet. Quand je traîne une enclume.
Et donc le cinéma pour toi, c'était une évidence.
Bon, il fallait que je fasse ça, ouais. C'est clair. Ouais.
Mais donc tu rencontres le CMCC de retour de ton...
Oui, de retour d'Iran. Ouais.
D'Iran, quoi. D'accord, c'est une correspondance... Pas mal, parce que tu as des images, tu as le désir, et puis là on te...
Oui, à la fois j'étais pas documentariste, j'aurais pas pu le prendre, j'ai fait des images en Super 8 en Iran, mais bon c'est un mec, un touriste qui a filmé un peu des gens qui gueulent, des fusils et tout ça. Mais
c'était en quelle année où tu étais en Iran? C'était en
78-79,
d'accord, oui, en pleine...
Je suis arrivé avec le chat et je suis reparti à l'arrivée de Khomeini.
D'accord.
Et donc après, en revenant en France, j'étais encore plus... comment on peut dire ça? J'étais quasi un autiste, en fait. J'ai beaucoup travaillé avec Deligny aussi.
D'accord.
Il m'a bien aidé.
Ah oui, t'as travaillé avec Deligny
Oui, parce qu'il voulait faire un film sur Pipa Bachar Rouge. Alors du coup, Jacques Allaire m'avait présenté à Deligny. Il m'a dit, tiens, il y a un mec qui bosse l'animation. Et il a dit... Et Deligny disait, voilà, c'est des gosses autistes qui ont fabriqué des chariots de western. Et ils ont raconté une histoire avec ces chariots. Quoi. Et donc, en gros, l'histoire, c'était qu'ils sont très mal dans le désert. Là, il y a un chariot gonflé. Et pof, à un moment, il a couché d'un petit chariot qui s'appelait Pipa Bachar Rouge.
D'accord.
Et donc, il fallait les aider à animer ça. Quoi. Alors, Jacques Allaire m'amène chez Deligny, on commence à discuter, tout ça. Je dis, mais c'est eux qui ont écrit l'histoire? Il me dit, oui, 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 c'est eux. Je dis, ah bon?
Et c'était... Non,
c'est lui.
Et Jacqueline aussi, il a fait des films d'animation, non?
Oui, oui, oui.
Avec Deligny dans les Cévennes.
Oui, oui, c'est ça, oui. Et moi, il m'a mené pour recaler, je ne me rappelle plus le nom du Jacques, je crois. Jacqueline, voilà.
Oui, Jacqueline.
Ah, et bon, alors la...
Mais oui, en fait, on a fait déjà une émission autour du moindre geste de Deligny, et ah, on d'accord. est tous les trois des lecteurs de Fernand Deligny, on peut dire.
Ouais.
On connaît monsieur. L'histoire.
C'est un grand monsieur.
Ah, ouais. Très très grand monsieur.
Ta rencontre ouais. alors avec un souvenir peut-être. Ta rencontre avec Deligny, comment ça s'est passé la première fois?
Quelle mémoire toi. Qu'est-ce qu'il t'a laissé comme trace?
On va pas te laisser.
Qu'est-ce qu'il a laissé comme ligne d'air au fond de toi?
On va pas te laisser sortir si tu nous racontes pas.
Non non, c'est que d'abord j'avais donné un scénario que j'avais écrit. Et donc il rentre, on s'assoit. Alors d'abord il n'offre jamais à boire. On s'assoit, on commence à discuter. Puis il me dit, mais je sais pas quoi faire. Donc il m'a fait une critique sur le scénario. J'ai la moitié compris, j'avoue.
Ouais. J'ai cette sensation chaque fois que je lis son livre, je comprends à moitié, mais je continue.
Mais c'est surtout quand on lui disait, on va le monter avec une institution. Alors là, ça devait, il devenait complètement furax. Non, non, il faut le faire comme
ah
ça.
Oui. C'était vraiment... ouais, ouais, dès qu'on parlait d'institution, il... ah oui.
Non, c'est vraiment très, très... C'est un monsieur particulier, en fait, qui est... Ouais, je sais pas comment...
Mais alors, donc, t'étais sur place, t'as vu un petit peu on va dire ce qui s'y passait, etc. T'es resté plusieurs jours ou t'es juste monté une journée? Comment ça s'est passé?
La première fois que je suis arrivé, je me rappelle, on est allé manger avec le gamin autiste qui nous servait. Quoi. Alors du coup,
c'est quoi ce truc?
c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire et tout? Et puis voilà, non, ça s'est passé assez bien. Quoi. En fait, voilà, j'ai montré, ben, toi, pour faire l'image, il vaut mieux faire un truc comme ça, de déplacer un petit peu doucement. Recharger les magasins parce qu'à l'époque c'était en film, donc c'est tout un truc qui est assez lourd. Et puis ils voulaient faire des mouvements, donc j'avais prêté une cale micrométrique en vissant. En fait, on peut gagner des centimètres mais de manière régulière pour faire des images d'images. Et puis voilà, après je lui ai dit, mais ça, ce serait mieux qu'ils fassent ça. Mais j'étais un peu. Il y avait des personnages sur les chariots. Mais ils étaient tous morts. C'est que les chariots qui bougeaient.
D'accord.
Et les personnages, on ne peut pas les faire bouger. Non, 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 Fernand, il ne veut pas. Et tout. Ah bon? Alors du coup, c'est que les chariots qui bougeaient. Donc,
donc ce petit film, c'est fait?
Pipache, ça, c'est fait, oui. Après, il a fait un autre... c'était quoi? Les fossiles n'ont pas d'histoire, un truc comme ça.
C'est ça.
J'ai encore la cassette à la maison, je crois que j'ai la cassette.
Tu le connaissais un petit peu, enfin tu en avais entendu parler de Deligny quand tu allais. Pour toi, c'était déjà quelqu'un de...
Tu avais vu le moindre geste alors déjà, non?
Oui, j'avais vu le moindre geste. Ouais. Attends, non, c'est parce que je confonds avec... c'est le moindre geste, je l'ai vu très tard en fait. Mais j'avais vu un film de...
Renaud Victor?
De Renaud Victor, ouais.
D'accord.
Ce gamin-là. C'est magnifique, ça.
Ouais, c'était ça,
ouais. Grand film. Ah ouais, et puis après, j'avais bossé avec Renaud aussi sur...
Les Baumettes? Non.
Non, c'est un film anime. Il voulait faire un truc anime avec de l'animation.
Ah, et est-ce que tu pourrais dire deux mots autour de Renaud Victor? Parce que c'est vrai qu'il n'est pas très connu.
Et il est passé, lui, au CMCC, d'ailleurs.
Pourtant, il a fait des films tout à fait remarquables. Enfin, ce gamin-là, De jour comme de nuit, Baumettes.
Un film qui n'en est pas un.
À propos d'un film à faire, voilà, Fernand Deligny. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur...
Tu l'as rencontré?
Oui, de plusieurs fois. Ben, quoi dire? Moi, les cinéastes, en fait, c'est plus sur ce qu'ils font qui me semble intéressant. Quoi. Et donc, ce gamin-là, il m'a scotché. Hein. C'est un super beau film, vachement bien fait, une belle approche, pleine de pudeur. J'ai trouvé ça très, très beau. Quoi.
Tu as eu l'occasion d'échanger avec lui, du coup, sur son cinéma?
C'est plus... Après, c'est plus on se retrouve, on boit un coup. Renaud, c'était sympa.
Comment il les construisait, ce film, ce gamin-là? Comment il l'a construit? Je me suis toujours posé.
Je pense que, en étant allé à Saint-Hippolyte-du-Fort, je pense qu'il a dû être en immersion sur ce film-là, parce que le gamin, il y était, là. C'est justement celui qui nous servait.
Jean-Marie.
Je me rappelle plus son
nom. Jean-Marie, oui.
Les cheveux longs bruns. Et donc il a dû faire ça en immersion, c'est-à-dire qu'il est resté avec lui, quoi.
D'accord, ouais, pendant longtemps.
Maintenant en vidéo ça se fait facilement, mais en film...
C'est plus compliqué, bon problème, hein. Ah ben ouais, c'est...
tu calcules pas pareil, quoi.
Puis Renaud, c'était un... Voilà, il était aussi obsessionnel que moi, en fait. Voilà, c'est ça qui est... Les cinéastes, c'est un peu ça, quoi. En fait, ils ont un projet, à un moment, c'est jusqu'au bout. Et Renaud, c'est un peu ça, ouais. Moi, c'est ce que j'ai ressenti plusieurs fois avec lui, quoi.
Au départ, quand on s'est mis à parler de Fernand Deligny, c'est que je te demandais comment tu es venu au cinéma. Tu m'as dit, je suis fils d'ouvrier, je suis pas à l'aise avec le langage. Du coup, j'ai voulu faire des films. Et tu as décidé de faire des films particuliers parce que c'est des films d'animation.
Non, je ne les revendique pas comme de l'animation. D'accord. C'est un geste plasticien et à la fois c'est un geste de cinéma aussi parce que je travaille en espace un temps.
Mais pourquoi tu as voulu ajouter de l'imaginaire du coup par ce travail?
Parce que je raconte des choses qui sont que symboliques en fait. Quand on met des personnages les uns sur les épaules des autres et qui vont jusqu'au ciel et vont très très haut, quoi, des centaines qui montent sur les uns sur les épaules des autres. Celui qui arrive en haut, il saute sur une échelle, il descend et quand il est en bas, il relève la pile, ce qui permet à celui d'en haut de sauter et de redescendre. On est une espèce d'absurde, d'un absurde qui à la fois parle parce que c'est un film que j'ai un peu suivi dans les festivals ou les trucs comme ça. Et chacun a son point de vue. Si on a un problème affectif, on dit tiens, c'est un problème affectif. Ouais, si on a des problèmes syndicaux, on se dit ah, mais voilà, la société elle est comme ça.
Ah oui,
on
oui,
parle,
oui.
Boum, boum, boum.
Tu dis, c'est un film qui laissait de la place à ce que chacun puisse y mettre ce qu'il vivait ou ce qu'il éprouvait de la vie, quoi.
Ouais. D'accord. Mais à la fois, je l'ai suivi en pouvant ne pas en parler. Je me rappelle, donc c'était le Grec qui l'avait financé, ce film. Il m'a donné 6 000 francs je crois, à l'époque pour faire un film. C'est pas.
Enfin, bref. À l'époque, ça faisait combien? Enfin, maintenant, ça ferait combien? Ça non.
1000 euros. Ça n'a pas fait grand-chose.
Non, mais si, avec la valeur... Elle,
ça fait 1000 euros.
Non, oui, ça, je sais. Mais avant, ça valait plus, avant l'inflation.
Là, on rentre dans de l'économie, là. Attends, tu multiplies par 0,06169.
Je crois que ça te fait... Un salaire moyen, c'était combien?
1200 euros, allez, c'est bon.
Non.
Un salaire moyen, à l'époque, le salaire moyen, je sais pas, en 80, c'était quoi le SMIG
En 80, bah écoute, moi c'est simple, je gagnais 10 000. Non, le SMIC c'était 8 000 francs.
Ah oui, donc c'était pas beaucoup alors 6 000
francs. Non, c'est beaucoup moins que ce que l'aide du Grec maintenant, parce que l'aide du Grec elle est à 15 000 euros, 14 000. Ouais. Donc elle est beaucoup plus conséquente.
Et puis voilà, c'est juste parce que j'avais envie. Hein. Mais donc le fait le rapport à l'ouvrier, en fait, si tu veux, c'est quand par exemple que Jean Rouge a été scotché par ça, il m'a dit bon, viens à la cinémathèque, on va le présenter à la cinémathèque. Il m'a mis devant Flaherty. Et il y avait l'échelle au milieu. Et donc à la fin, il a fallu que je parle. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vous dise? Je ne savais pas comment en parler. Et je sentais que les gens attendaient que je dise quelque chose. Quel est mon point de vue? Pourquoi je fais ça?
Oui, alors que tu as fait ce film justement parce que tu ne pouvais pas mettre de mots sur ce que tu disais probablement. Et que, donc c'était le meilleur moyen pour toi d'exprimer ce que tu avais au fond.
Et ça vient d'un rêve, l'idée? Ouf.
Non, j'étais au téléphone en discutant, j'ai commencé à dessiner, je me disais, ce serait pas mal de faire ça. Et après, ils montent tellement haut, ils vont en haut, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont redescendre, quoi. Hop, une échelle.
Mais ça me fait penser, là, pour reprendre ce que tu essayais de dire, mais je sais pas si je vais réussir à reprendre ce que tu essayais de dire et de revenir. Parce qu'en fait, là où il essaie de te titiller, David, je trouve, c'est que la question c'est la question de l'autisme. Tu vois, le fait que, avant de rencontrer Deligny, on a l'impression que tu étais aussi dans un geste artistique, mais que ce geste artistique interrogeait une question d'autisme, je sais pas comment dire, mais une question du langage,
du pré-langage.
Ouais, du pré-langage, ou du. Bon, ce que travaillait Deligny d'une certaine manière, quoi.
Oui, mais lui, ça l'a pas effrayé. Bon, René, il me dit, mais on va te l'écrire, ton truc. Ouais. Alors qu'en fait, pendant l'échelle, il parle, il y en a un qui fait boum et l'autre fait boum. Boum, 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 boum. Et donc, il parle comme ça, quoi.
Ah, donc, il n'y a pas de mots, alors?
Hein?
Il n'y a pas de mots?
Non, il n'y a pas de mots.
D'accord. Ce qui fait que tes premiers films, il n'y a pas de langage, comme on dit, de langage à proprement parler.
Il n'y a pas de mots.
Pas de traduction?
Non plus.
Donc, ils pouvaient passer à l'étranger?
Pas de pays. Oui, ils sont passés à l'étranger.
Du bruit, du son?
Ah, du son, oui.
Ouais.
Bah, c'est Lucien Bertolina qui a fait la musique, enfin, la bande-son de l'échelle.
Ah ouais, Lucien Bertolina qui est un très grand ingénieur de son, puis qui fait beaucoup de choses à Marseille d'ailleurs encore.
Oui, avec le groupe de GMEM, je crois.
Ouais, le GMEM.
Et puis voilà, après, non, mais l'échelle, il a suivi son parcours normal pour un film fait comme ça. Après, il a été diffusé au Canada, un peu partout en fait. Hein, ça s'est fait. Mais dans le rapport au langage, en fait, je me rappelle, la seule fois où j'ai parlé, en fait, c'était face à Grom Grillet, parce qu'en fait, il me disait, mais Là, pourquoi il finit comme ça? Parce qu'en fait, les types tournent en rond, ils s'échangent, donc ils tournent en rond, on se tape pas sur la tête. Il me dit, c'est une histoire de fou, mais pourquoi ça se finit comme ça? Parce qu'à la fin, ils continuent, quoi. Ils font leur truc, les mecs. Alors je lui dis, mais j'avais que trois solutions. Soit c'était la fin à la Charlot, c'est-à-dire qu'il partait, un des personnages tombait de l'échelle, et il part dans le lointain face au soleil levant avec sa compagne. Je lui dis ça, je sens pas trop. Ou alors c'est quelqu'un d'engagé politiquement, donc il prend la pile et il fait tout tomber. Quoi. Je dis mais ça, je le vois pas non plus. Donc la seule issue, c'était qu'il fasse comme les autres. Quoi.
Ouais, le cycle. Continue. Ouais. Le cycle éternel.
Ouais, c'était un peu là. Ouais, et alors il m'a regardé comme ça, il m'a dit bon.
Donc c'est quand même pas rien, Alain, comme parcours, d'avoir aussi voilà, travaillé près de quelqu'un comme Deligny,
René Alliot.
De René Alliot, c'est...
T'es bien entouré, hein.
T'as eu de la chance.
Ouais, ouais. Il faut en avoir, hein.
Ouais, ouais, il faut en avoir, parce que sinon, c'est pas possible.
Et tu nous parlais de Jean Rouch, parce que, ouais. Bon, Jean Rouch, c'est plutôt du... Enfin, je sais pas si on peut parler de cinéma ethnographique, documentaire, mais comment il est venu à voir ton film, par exemple?
Parce qu'il était à la commission de sélection du Grec.
D'accord.
Il y avait Komoli, Moumenchmi, Pascal Canet, Jean Rouch. Donc c'est les gens que j'ai revus après au CMCC. On s'était, ce qui était rigolo dans les colloques. J'ai dit, ah tiens, Jean Rouch.
Et du coup, il a eu l'idée de croiser ton film avec d'autres films, enfin des films de Flaherty.
Oui, parce qu'on l'avait présenté à la Cinémathèque. Enfin, tous les films du Grec sont présentés à la Cinémathèque à la fin. Ils font des sessions, une fois tous les mois ou tous les six mois, je ne sais pas quoi. Et celui-là, en fait, il avait impressionné. Quoi. Il m'a dit, bon, on va le passer à la Cinémathèque. Et donc, j'étais impressionné, moi, parce que devant Flaherty, je me dis,
c'était lequel film de Flaherty, tu te souviens?
Nanook.
Nanook,
ouais. L'Esquimau.
Premier film documentaire mis en scène.
D'après ce qu'on dit.
D'après ce qu'on dit.
Voilà.
Qui devint une glace.
On peut faire une pause musicale.
Allez, une petite pause musicale et on reprend après. Puis on continuera sur le film que tu es en train de faire. Parce que finalement, le film que tu es en train de terminer a une origine...
Iranienne
et une origine aussi au CMCC d'une certaine manière.
Ah, d'une CMCC, oui, on revient en source. Là,
on revient en source, donc on va parler de...
Le retour.
Voilà, donc on fait une petite pause, tout se fume une cigarette, voilà.
À tous les amoureux, à tous les Iraniens, à toutes les amoureuses, on va brûler les champs.
Des arbres se penchent plus fort, plus fort.
aux galères. À vous la parole.
Ouais, c'est facile de dire ça. Donc on disait que on allait se mettre à parler du dernier film d'Alain Huchtot, parce que d'une part, bah, surtout parce qu'il avait une origine dans le CMCC, puisque c'est au retour de ton voyage en Iran, tu rentres au CMCC, tu mets un peu ce film de toute cette histoire de côté, donc.
Oui, oui, là, mon envie de faire des films est évidente, donc je fais l'échelle. Donc pendant 7 ans, je fais de l'animation et j'arrive pas à en vivre en fait. J'en survis plus que j'en vis. Ensuite, je suis parti dans l'actualité avec. J'ai fait du son à TF1, à la 2. Ensuite, je suis passé à la caméra en me disant au moins je vais faire comme ça me fera une espèce de. Tous les jours, un petit image, des images, quoi. Ça faisait un entraînement, quoi.
Et tu dis que tu fais du son, c'est-à-dire que tu t'apprends sur place, sur le tas, à l'époque.
Oui, c'était avec les films du soleil, oui. Oui, à l'époque, c'était pas très compliqué de faire du son. Moins qu'ici. Hein. Et puis ensuite, un peu de caméra, voilà. Puis au bout de. J'en ai fait 7 ans, quoi. J'ai un peu promené dans notre monde de malade, là où. Voilà, c'est un truc comme ça. Ensuite, j'ai fait un film pour la région, un documentaire, et je me suis dit, mais quand même, il faut que, au moins, la 3, ça serait bien qu'il le diffuse. Donc, je suis allé voir le directeur des programmes. À l'époque, c'était Alain Desmarais. Il m'a reçu, il m'a dit, mais vous voulez quoi? Je dis, ben, que vous le diffusiez. Il me dit, non, c'est un très beau film, mais il n'y a pas de case pour ça. Il me dit, vous voulez quoi d'autre? Ben, si vous avez un peu de boulot. Il me dit, ben, justement, il cherche, là, à telle émission, il cherche des réalisateurs. Je dis, bon, je me suis présenté, puis voilà, après, j'ai fait pendant 7 ans des documentaires pour France 3. Et puis, à un moment, comme ça se passe toujours, il demandait de faire des films. À un moment, il voulait faire un film. Et je sais pas pourquoi, en fait, la 3 était fixée là-dessus. Il voulait faire un film sur un type qui avait écrit une thèse de troisième cycle sur la littérature et la pêche. Et donc, dans les couloirs, ça se disputait en disant, mais qui va faire? On peut pas faire un film là-dessus. Pourquoi? Et moi, je lui dis, mais si, ça serait très bien, je peux le faire. Bon, ben, allez. Et donc, après... J'ai fait ça, ça leur a plu, et puis après un autre, puis donc j'ai fait ça pendant 7 ans, quoi, où là on est un peu tranquille, quoi, la marmite est remplie, tout va bien, quoi. Et puis après, ben, le fait de faire ça sans arrêt, je me dis, ça serait bien que je fasse de revenir à mes sources, quoi.
Tes amours premiers.
Et à mes amours premiers. Et donc je suis revenu à cette histoire en me séparant d'une compagne dans un carton oublié, au fond d'un placard. J'ai retrouvé des lettres de cette amoureuse iranienne. Et puis ça m'a renvoyé à toute cette histoire avec à la fois sa beauté, sa dureté. Et puis je me dis, ça serait pas mal d'en faire un film, quoi. Donc j'ai fait un peu l'inventaire de ce que j'avais, les lettres, des Super 8 que j'avais retrouvées dans une cave un peu... Voilà, je fais l'inventaire de ce que j'avais, et puis je commence à écrire un texte. Alors pour le coup, là, j'ai appris à écrire comme il faut. Après, après j'ai écrit avec Jacques Robou. Il m'a réécrit les trucs. Il digresse au moins que moi. Et puis après, on l'a fait relire par un autre scénariste. On a eu des aides de la région, du CNC, de médias, de tout un tas de gens, quoi, en fait. Voilà, après, c'est... on s'est mis en place, quoi. On a mis le sujet en place et aujourd'hui il est fini, quoi.
Alors comment tu t'y es pris pour te raconter une histoire, te réapproprier et re-raconter une nouvelle histoire dans ce film-là?
Comment j'y suis pris? Ben, j'ai d'abord fait l'inventaire de ce que j'avais, parce que ce que j'avais, c'était déjà en mémoire, donc j'ai essayé d'écrire, moi, à partir des lettres, les souvenirs que ça m'a renvoyé, quoi. Donc, la trame, c'était qu'est-ce qu'elle est devenue au départ, quoi.
D'accord, ça c'est la
trame.
J'ai
commencé à la chercher, je l'ai trouvée, donc je l'ai retrouvée, donc le but n'allait plus. Et puis, je travaillais avec Serge Laloux à l'époque. Et donc, il m'a dit, mais elle, je comprends ce qu'elle fait, mais lui, il fait quoi? Je lui ai dit, ben, à l'époque, il faisait de l'animation. Ben, voilà, ça c'est pas mal, raconte-le comme ça, quoi.
D'accord, ah oui, donc c'est lui qui t'a donné cette piste de...
Il m'a poussé là-dedans, assez fort, parce qu'il produisait Valsa avec Bachir à l'époque. Il m'a dit, mais c'est vachement bien, écoute, c'est ce qu'il faut faire, là, pour toi en plus, c'est vachement bien, j'ai vu tes films et tout, c'est bien, vas-y, fonce là-dessus, quoi. Et donc voilà, j'ai commencé à réécrire. Après, là, c'est plus des situations, c'est une narration qu'on met en place. Donc quand mes films, c'est que des situations, hein, l'échelle, la fleur, la boule, c'est des situations qui sont absurdes, mais c'est des situations, il n'y a pas vraiment un récit, quoi. Et donc, quand on part sur un récit, La problématique, c'est d'avoir un personnage et de suivre ce personnage, de développer, d'envoyer une séquence, l'achever, repartir sur une autre. Donc il y a vraiment une construction à faire qui est importante. Et ça, c'est un boulot, quoi. C'est un boulot d'un an, deux ans même, deux ans de boulot, quoi.
Dans le sens de l'écriture.
Dans le sens de l'écriture, oui. Ça, d'accord. Ça a commencé à toucher, quoi. Et je trouve que ça correspond pas trop à mes envies. Moi, j'ai besoin de vraiment de toucher, d'être le truc de toucher. Mais bon, voilà, c'était parti comme ça, donc ça a été un peu long à monter. Mais en fait, il a bien accroché. Il a plu, en fait. Voilà, c'est ça. Quand on fait un scénario, on fait un objet de désir. Donc là, le désir a marché.
Ouais, ouais, c'est ça.
Donc j'ai été aidé dans cette avancée là, quoi. Et encore maintenant, le chemin était long, mais l'aventure magnifique, quoi. C'est vraiment une aventure.
C'est un chemin de combien de temps quand tu dis le chemin est long?
5 ans, hein, 6 ans presque.
6 ans. Ouais. D'accord.
Mais c'est le tarif, même pour un premier film, c'est un peu le tarif.
C'est aussi parce que c'est un film qui compte pour toi, j'imagine, et qu'on dit qu'il faut suffisamment d'énergie pour tenir sur la route comme ça, aussi longtemps, pour mener à bout un projet. Donc c'est un projet qui tenait à cœur. Oui.
Ouais. Ah, mais ça, il y a un minimum à avoir pour être réalisateur, c'est têtu. Hein. Si on ne l'est pas, je crois qu'il faut bien réfléchir. Parce que...
Bon, Fabello, vous êtes têtu ou pas?
Il va falloir que je renforce un peu de ce côté-là, quoi.
Je sais pas, moi j'ai des origines bretonnes, donc peut-être ça va.
T'es bien placé, quoi. Ouais.
Je suis pas borné, têtu. Hein,
ça va têtu, ouais, c'est pas pareil, parce que borné, là, c'est plus compliqué encore.
C'est plus compliqué.
Mais là, donc, aussi la question par rapport à l'Iran, comment ça se passe? Parce que toi, tu y es en 78-79, au moment où il y a tout ça qui se passe. Ouais. La question de l'actualisation, comment tu. Parce que c'est pas un film historique.
Non.
Ou comment cette question-là, t'as joué avec
Au départ, dans les premiers inventaires que j'ai fait, dans les premières recherches que j'ai mis en place, donc j'avais les lettres, le Super 8. Ensuite, je suis allé à l'INA, je suis resté 3 jours, et j'ai revu toute l'actualité de ces jours-là, quoi. Avec tout ce qui se passait, et donc ça me renvoyait des choses que j'avais vécues, mais un peu en différé, quoi. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas raconter avec les archives de l'INA? Les journalistes, la trame au départ, ça n'a pas tenu le coup sur la durée, mais au départ, je me disais, ce serait intéressant de raconter la petite histoire et la grande histoire. La grande histoire, on la garde avec les journalistes, c'est-à-dire avec les images d'archives et les journalistes qui étaient sur place. Et la petite histoire, qui pour moi était la plus grande, est l'histoire d'amour qui se raconte en pâte à modeler.
D'accord.
Et après, petit à petit, les archives de l'INA, c'était pas mon histoire. En fait, c'était un peu compliqué d'utiliser ça. Donc on a commencé à virer beaucoup d'archives. Après, au départ, c'était les journalistes qui les racontaient. Les journalistes, ils racontaient des trucs, mais c'était pas vraiment ce qui s'était passé. On pouvait pas couper dedans, quoi. Voilà, moins de faire rejouer par notre journaliste.
Oui, ça aurait fait des raccourcis, effectivement, un peu dangereux, peut-être.
Ouais, puis ça allait pas. Puis une histoire d'amour, c'est beau parce que c'est quelqu'un qui la raconte. Si on commence à mélanger aujourd'hui, d'amour, ça allait pas, quoi. Donc, il a fallu reprendre. On a repris ça en élaguant un peu. Voilà, c'est un film qui a été fait sur un truc très grand, et puis après, on a commencé à élargir. Élagué, pour en arriver à quasiment un film qui racontait dans la pâte, quoi. Le mec, il, dans la douceur de la pâte, en malaxant la pâte, il va son cœur, en fait. Voilà, c'est un peu l'idée de ce film-là, quoi. En retrouvant cette pâte, c'est-à-dire que la vraie histoire, en fait, quand je suis allé au CMCC, j'ai fait une dizaine de films pendant 7 ans, je fais une dizaine de films en animation. Mais à un moment, au bout de 10 ans, l'affaire avec l'Iranienne s'est achevée, quoi. C'est un peu délité, on s'écrivait tous les jours, et puis après un peu de moins en moins, puis après une fois tous les mois, et puis après plus du tout, quoi.
Loin des yeux, loin du cœur.
Voilà. Et en même temps que je l'ai abandonnée, j'ai abandonné la pâte à modeler aussi.
D'accord.
Après, je suis allé dans l'actualité en disant, bon, j'avais des gosses, tout ça. Après, la vie est normale, quoi. Il fallait payer les pensions, les crédits. On vit, quoi.
Ouais, la vie, ouais. D'accord.
Et après, ça s'est fait comme ça, quoi.
Donc tu l'as fait en pâte à modeler, en fait, après, quoi.
Ah, oui. Oui, parce qu'elle voulait pas que je le fasse. En plus, elle me dit, mais tu vas pas me montrer aujourd'hui, parce que. Voilà. Et donc, je dis, non, tu seras représenté par un personnage en pâte. C'est-à-dire que le personnage en pâte, c'est ma mémoire, en fait. Et donc, en prenant cette chose-là, c'est quelqu'un qui met les mains dans la pâte, et en retrouvant la pâte, dans la douceur de la pâte. La pâte à modeler, si tu veux, quand tu la prends dans les mains, elle se réchauffe, elle se détend, elle s'alanguit, elle se détend. C'est un peu un rapport amoureux, en fait. Et puis à partir de là, on raconte ce qui s'est passé, mais dans la pâte, quoi. Donc, c'est-à-dire que dans cette mémoire, quelque chose de mou, remontent des souvenirs abominables, d'autres super mots, et puis voilà, une révolution, quoi.
Mais effectivement, comme dit Laurent, pas évident pour toi qui effectivement était attaché à quelque chose de très, très, on va dire, proche de cette histoire d'amour, très sensuelle, très, très, très tournée autour de l'émotion, d'inclure la question politique à l'intérieur. Ça devait pas être facile à mettre en symbiose avec tout ça, quoi. Comment tu t'es, comment t'es arrivé à dépasser, enfin du moins à inclure les deux, quoi.
Ben le point de vue, d'abord, moi j'ai comme point de vue occidental, on se refait pas, mais donc les journalistes qui étaient là-bas aussi avaient un point de vue occidental. Mais en écoutant les Iraniens, en fait, il y a souvent d'autres points de vue, quoi. Ils ont vraiment des choses magnifiques. Je me rappelle, la première fois que je suis en Iran, on m'a raconté une histoire. C'est qu'à une époque d'un roi très ancien, il avait demandé à un architecte de lui construire un hôpital. Et l'architecte, il a pris une vache morte, quoi. Il l'a coupée en quatre et il a mis les quatre bouts aux quatre coins de la ville. Et à l'endroit où c'était le moins pourri, il a dit, c'est là qu'il faut construire l'hôpital. J'étais scotché, je me dis, oh, waouh, ça c'est du raisonnement. Et voilà, c'est une autre manière de voir les choses, qu'ils n'ont pas le sens de la mort. J'ai vu des types mourir, je me dis, mais jamais j'aurais vu ça en France ou n'importe quel pays occidental, quoi. Alors que c'est une autre... voilà, la vie, elle est aussi aujourd'hui, mais elle est aussi demain, le martyr, enfin... C'est une autre civilisation, très riche, mais c'est une autre civilisation. Mmh. La poésie, ça prend une grande place.
À Fès, Rumi.
Rumi, Saadi, Firdousi, le livre des rois, j'ai lu, c'est magnifique ça. C'est une autre culture, en fait, avec c'est une grande richesse, quoi. Mais, et donc, moi, en gardant ce point de vue donc, d'occidental, en disant, elle, c'est une orientale, moi, un occidental, voilà, donc je l'ai vécu comme ça. Et donc, j'ai essayé de le raconter en reprenant les situations, des situations que j'avais vécues et qui étaient assez, assez douloureuses ou certaines amoureuses. Hein, voilà, comment on montre... Moi, je suis représenté par un personnage rose et elle par un personnage bleu. Et donc, quand ils se rencontrent, ils font l'amour, mais ils se mélangent. Donc, tu mélanges la pâte, ça fait un geste amoureux qui est fort.
Et le rose et le bleu, ça donne quoi, du coup? C'est du violet?
Non, ça fait des choses striées, tout un tas de couleurs qui se mélangent.
C'est pas de la peinture, David. C'est la pâte à modeler.
Ça se mélange quand même, non?
Pas tant que ça, la pâte à modeler. Hein, ça se mélange.
Maintenant, c'est de la pâte modelée, en fait. Parce
la pâte modelée.
À modeler, elle est encore dans le paquet. Mais là, elle est modelée. C'est
vrai, ça ne faut pas qu'on oublie ces petites nuances.
Après toi, ou en même temps que toi, je ne sais pas, je n'ai pas grande connaissance de l'animation en pâte à modeler, est-ce que tu as été amené à rencontrer des gens qui travaillaient sur, je pense, Wallace et Gromit, etc. Est-ce que c'est des gens qui étaient un peu... Je sais pas à quel moment ça se situe, s'ils sont de ta génération ou après, etc. Est-ce que c'était d'autres façons de travailler? Comment t'as appris d'ailleurs à faire ces personnages? Parce que c'est très simple à faire.
J'ai pas vraiment appris. Mon père était communiste et ma mère catholique. Donc il y avait des grands repas où il y avait des discussions à n'en plus finir. Sur des choses qui sont assez proches, on se dirait, enfin, à l'époque, je me dis, oh, c'est assez proche quand même. Ils ont gueulé quand même. Et à la fin du repas, mon père, il prenait la pâte du Babybel et il faisait des petits oiseaux, un truc comme ça. Et je me rappelle, Minot, je prenais cet oiseau, hop, je tournais, c'était vraiment. Il vivait, quoi. Et donc, ça est venu assez naturellement, quoi. C'est un peu le.
Belle histoire.
Ouais. Et ça a marqué parce que j'ai une fille qui a. Enfin, j'ai deux filles, mais une qui a 23 ans. Et en fait, quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu penses de papy? Elle me dit, quel est le souvenir que tu as de papy? Elle me dit, mais c'est quand il jouait avec la pâte à modeler.
Ah ouais.
Dans les machins rouges, il fait ses oiseaux.
Donc, dernier film d'Alain Guéto, sponsorisé par Babybel.
Par la croûte du Babybel.
C'est comme un moyen alternatif de production, il faut le dire.
Oui.
Et Alain, du coup, ce film-là, c'est ton retour à la création?
Oui. Oui, parce qu'en fait, pour moi, un réalisateur, c'est quelqu'un qui est plus un chef un conducteur de travaux, un chef de chantier, quoi. C'est un peu un architecte, en fait. Il met en place un scénario. Ce scénario, c'est à la fois à l'intérieur, il y a le récit, mais il y a aussi tous les problèmes techniques. Il y a tout le monde y trouve son compte, quoi. Du chef op jusqu'au producteur, à l'assistant, tout le monde trouve son compte, quoi. L'acteur. Moi, dans ce cas de figure, c'est plus un geste plasticien, c'est-à-dire que ça part d'abord d'une envie de faire bouger des personnages. C'est à la fois magique parce qu'on prend quelque chose d'inanimé et on arrive à lui donner une âme, comme c'est dit. Et ça, c'est magique. Après, comment ça se gère dans une narration, c'est encore un autre problème. Où là, on a vraiment les problèmes du cinéma avec le scénario, comment ça se construit, comment on finit une séquence et comment on ressort un sur une autre. Là, c'est des problèmes de cinéma. Mais avant, c'est un rapport aux arts plastiques, quoi. Et donc, ce film, je l'ai fait avec Bernard Reza, donc, qui est un grand chef décorateur, qui a fait la déco. Et quand je lui ai dit, mais voilà, je vais faire ce film-là, on a un peu de financement, mais bon, tu n'auras pas une équipe de 150 personnes. Et donc, voilà, c'est un pote, en fait. Bon, c'est... Et donc, j'ai dit, en plus, la ville, on va la faire avec des emballages de polystyrène. Oups. Alors, il m'a dit, ah bon? Et donc, voilà, on s'est un peu enfermé, on a commencé à calculer, voilà, patiner, faire des trucs, faire des maquettes, essayer de trouver.
Pour représenter la ville à Téhéran, ouais. Téhéran, d'accord. Ouais.
Et ça a été tourné où, du coup ?
À l'Alhambra.
À l'Alhambra.
Dans un studio derrière l'Alhambra qui nous ont passé. C'est l'époque où Jean-Pierre Daniel était encore là. Ils nous ont passé ce studio. On a construit la ville de Téhéran avec des emballages d'objets qu'on trouve de partout dans le monde. Hein,
incroyable.
Et du coup, c'est encore des relations du CMCC.
Oui, mais ça reste. Ça fait partie des points de passage, quoi. C'est Philippe Faucon, je le vois toujours. Il y a des gens que je vois sans arrêt, mais Robert Guédiguian, je le vois aussi. Il était pas au CMCC.
Il y a encore des choses. Ouais, ça a créé quand même des choses fortes, cette histoire du CMCC, même si elle a duré que quelques années. Ça a créé des liens forts. Ouais.
Pierre Berthelot, qui a quitté, il est dans Générique Vapeur, il fait plus des interventions de rue, je le vois avec plaisir. On rigole, quoi, voilà, c'est pas. Il fait autre chose, bon, c'est très bien, il a envie comme il faut. C'est plus des relations de potes, quoi, voilà. Ici, je pense qu'il faudrait faire ça, en fait. On parle toujours de Paris, c'est incontournable pour trouver du fric, mais je pense que les idées, elles se font pas à Paris, en fait. Les idées, on peut les avoir entre nous, on peut échanger. Moi, chez des gens, c'est des gens référents. Je sais que si je leur envoie un texte, ils vont m'envoyer, là, c'est mauvais, il n'y aura pas de flagornerie, quoi. Ils vont me dire, ça, c'est pas bon, j'ai pas suivi, ton discours, il est nul, on sait pas où tu vas. Enfin, bon, des trucs durs, hein. Je me rappelle avoir des critiques. Pendant une heure, je suis ma cigarette, je me dis, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais bon, c'est un peu le... Après, ça se ressent dans un texte. En fait, quand il y a un texte qui est rempli de plaisir, de désir, ça passe, ça se ressent, quoi. Je sais qu'on est passé... je me rappelle être passé dans une commission du CNC. J'étais avec Alexandre Cornu. Je me dis, on va se faire aligner, quoi. On aime. Je me dis, mais non, tu vois. Et en fait, c'est très, très bien passé. On le sentait que les gens étaient avec nous. Comment on peut vous aider, tout. Et donc, il y avait 300 projets. Ils en ont présélectionné 25. On est resté on a eu 80 000 sur les seuls qui ont eu 80 000 sur le film, quoi.
Et un budget de film d'animation comme le tien, c'est combien? Enfin, de film...
Là, je ne sais même plus combien on est, mais ça doit être dans les 4... je ne vais pas me planter avec les zéros, là. Ça doit être 4 et 3 zéros, ça fait 400 000.
Ouais. 400 000.
Ce qui n'est pas non plus...
C'est un tout petit budget. Ouais, voilà. Tout petit budget.
Pour un film de 70
minutes. Ouais.
Mais qu'est-ce que tu penses?
C'est un mélange. Il n'y a pas que de la pâte à monter. Hein, le récit, c'est faire remonter les souvenirs dans la pâte. Hein, c'est plus ça. Donc, y a un mélange d'archives, de fiction, d'animation.
Et qu'est-ce qui... Tu dis que les gens avaient beaucoup envie de le soutenir. Tu penses que c'est quoi qui a attiré, qui fait que ces gens ont été attirés par cette histoire? C'est
parce qu'ils ont senti le plaisir qu'il y avait dans ce film. Moi, pour moi, je l'analyse comme ça, parce qu'ils ont senti le plaisir. Je me rappelle une nana de Canal Plus qui l'a pas pris parce qu'elle dit c'est pas dans mes cases, mais je trouve que c'est un superbe film, quoi. C'est vraiment, il faut le faire et tout, quoi.
Ouais.
Et donc je sentais que la première fois, je tombe dans une réunion où tu sens que c'est bon, ils vont t'aider. C'est pas combien, mais ils vont t'aider, c'est sûr. Parce que tu sens qu'ils sont avec toi, quoi.
Ouais, d'accord.
Ils l'ont senti sur une petite maquette de 4 minutes. Et un texte qui a été écrit avec un dispositif et une note d'intention. Surtout, il y a eu une note d'intention de 4 pages qui les a apparemment bien séduit, quoi.
Si on prend la pure réalisation du film, c'est-à-dire dans la fabrication du film, combien de temps ça t'a pris, en fait? Enfin, ça vous a pris...
Il y a un an, quoi.
Un an de travail.
Toute la,
parce que la posture, en fait, c'était comme c'était un mélange. Pardon.
Non, vas-y.
Je tenais à être seul, moi, animé et seul. Donc les gens venaient pour la déco, c'est la déco, après on calait un peu la lumière.
C'est toujours toi qui étais à la pâte à modeler.
Ouais. Et après ils partaient, parce qu'on voit mes mains en fait. On voit mes mains en train de manipuler.
D'accord, ok.
Et donc voilà, c'était fini, j'appelais, problème technique, problème de décor, problème de...
D'accord, donc tu avais ton arsenal de...
T'étais chef d'un sentier, mais d'un tout petit chantier, mais gros quand même.
Donc tu avais le bouton Bernard Vesa. Voilà.
Après, Pierre Benriem pour la lumière, j'appuyais, Rémi pour le problème technique. Ouais.
Un vrai chef d'orchestre alors.
Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Mais bon, c'était parce que c'était l'idée du film en fait, ça c'est venu comme ça en travaillant avec les gens, en écrivant avec Jacques, il me disait, mais là comment tu vas faire? J'ai dit, ben ça... Moi, je dis, bon, laisse-moi une journée, je te l'écris, la scène. Je l'écrivais, je me rappelle, il arrive, il me dit, je lui fais lire, mais on ne comprend rien. Je dis, comment si tu ne comprends rien? Et donc, voilà, on se remettait à deux, hop, on change ça, là, on ne comprend pas, mais ça, c'est quoi, ça, machin?
Ouais.
C'est un mode de travail qui est plus de l'artisanat.
Ouais, quoi, voilà, artisanal.
Ouais, en plus, ça se prête à ça, qu'on met les doigts dedans. Voilà, puis à un moment, je devais faire, comme il y avait une révolution, la révolution iranienne, elle s'est passée sur les toits. C'est-à-dire que les gens montaient sur les toits, ils allaient crier. Et donc là, quand on a Téhéran, à un moment, il a fallu mettre des pantins sur tous les trucs et faire « Allô, Akbar !» Eh bien, donc tout le monde est venu, Jacques, Bernard, tout le monde, on a commencé.
Tu parles de quelle révolution là? De la révolution
iranienne, hein.
Les 79.
79, ouais.
Parce que aussi... Non,
78, parce que 79, il y avait déjà communié.
La révolution verte aussi, il criait sous les toits aussi à la Wakba.
Ah oui, oui. Et ça se finit, la perspective actualisée du film, elle est là-dessus. Hein. On revient à ça. Et donc ça n'a pas changé, en fait. Ça ne changera pas comme ça, quoi. Ouais. Le printemps arabe, il commence pour eux, quoi. Mais voilà. Et donc, on s'est retrouvés, toute la bande, quoi, en train d'animer, quoi.
Ouais, voilà.
Alors, 3, allô, Akbar, toc, 2, hop, on revient.
Est-ce que quelle perspective tu as est-ce que c'est peut-être un peu tôt d'en parler, mais de diffusion sur ce film-là? Est-ce que c'est typiquement un projet de film qui peut, se diffuser un peu largement? Mm-hmm. Tu en es où par rapport à ça?
Ben, là, on doit voir quelqu'un d'ici, là, qui est...
Thomas Ordonneau,
chez là, quoi, là. On va lui montrer. Après, bon, c'est une autre phase, quoi. On va chercher une diffusion. Mais moi, je pense que c'est un film qui est très, très tout public. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est vraiment une histoire amoureuse qui est racontée dans la pâte, quoi. C'est...
Oui, qui peut faire une sortie sale. C'est l'objectif.
Donc, on espère le même succès que Vals avec Bachir, qui va.
Qui a très
chaud. Là, c'est. Oui, je ne sais pas. Enfin, les succès, je ne sais pas trop.
Et t'as d'autres projets, alors ça t'a donné envie de te dire. Bon, parce que c'est une expérience longue de 6 ans. Est-ce que ça t'a dit. Bon, est-ce que je repars pour 6 ans ou comment tu.
Non, là, j'ai repris l'idée de l'artisan tout seul dans son coin.
D'accord.
Je trouve que la narration, c'est très très dur à gérer. Quand on écrit un scénario, c'est très très long. En plus, des fois, tu bouges un truc, ça bouge tout bouge au départ.
Ouais.
Je trouve ça vraiment très très dur. Enfin, pour moi, c'est vraiment un truc
contraignant, quoi.
Ouais. Très contraignant. Ouais. Et donc, je me suis dit, mais j'y vais volontiers faire ce truc. Et donc, tous les jours, je fais des mouvements de pattes, quoi, si tu veux.
D'accord.
Je raconte des petites histoires, mais qui durent une journée, quoi. Juste une journée.
D'accord. Ah ouais.
Puis voilà, après, moi, je verrai. Qu'est-ce que ça va raconter, je verrai après.
Ce qui est génial, c'est que ça te laisse énormément de liberté, en fait, de pouvoir créer ces histoires-là. Quoi.
Et tu fais ça où? Tu fais ça toujours à l'Alhambra?
À l'Alhambra, toujours, oui.
Et c'est filmé comment, en fait?
Un Canon. J'ai un Canon 7D, un disque dur. Et
c'est image par image?
Image par image, oui.
D'accord.
Moi, je mets les mains dedans, des fois.
Donc tu fais ça comme un ouvrier, tous les jours, tu vas...
Ouais, fonctionnaire à pas payer.
Les 3-8.
C'est un peu ça, ouais.
Mais ça change pas de main.
T'as été chef de chantier, mais finalement, tu te dis que c'est peut-être chef de chantier, c'est bien, mais ça fait beaucoup de pression.
Oui, voilà, non, je fais ça régulièrement, quoi. C'est plus...
Et tu veux les montrer?
Oui, je commence à les mettre sur Internet, là, ouais.
Ah, alors tu peux annoncer alors où on peut les voir?
C'est profond la toile est très profonde.
Qu'est-ce qu'il faut taper sur Google pour retrouver ces...
Mon nom, tu tapes et ça doit arriver, je pense.
On a cherché et on n'a pas trouvé.
On en a trouvé un petit, je crois.
Non, on a trouvé le teaser de Yasmine.
Non, on en a vu un petit sur une goutte.
La goutte, oui. Voilà. On a vu la goutte, oui, c'est le premier que j'ai mis.
Voilà, la goutte, moi j'ai vu la goutte.
T'as vu la goutte?
Qui dure 1 minute 45. Voilà.
Mais c'est sur quoi? Sur Dailymotion? Sur Vimeo? Tu sais. T'as un site internet ou pas? Non.
Si, non, j'ai pas de site internet, mais je suis pas très branché.
Et c'est toi qui les mets en ligne ou pas?
Oui, le premier c'est moi, mais le deuxième je n'arrive même pas à trouver. Ouais,
mais... moi je ne sais pas faire.
On
encore.
Peut t'aider. Bon,
tu m'apprendras Alain pour le mettre en ligne ou David est trop fort.
Moi je peux vous
David c'est un spécialiste. Ouais, hein. David, t'as bien une petite fenêtre sur Dérive.
Ah bah, avec plaisir. Alors là, tu es le bienvenu parce qu'on a un site internet où on diffuse des films en fait.
Si ça t'intéresse, Dérive.tv. Et on met les auteurs. Les auteurs, on leur fait une fenêtre et ils diffusent leurs films là.
Voilà, ce sera peut-être les premières pâtes à modeler pour
Dérive. Ouais, ça serait bien.
Non, j'ai essayé tout à l'heure d'en mettre un, je ne sais pas.
On reste en contact alors. Et je vois qu'il reste 10 minutes pour la fin.
T'es fort, David.
Je vois l'horloge. Et je voulais te poser une question, Alain, parce qu'à côté de toi, Lo a monté une association qui s'appelle, enfin avec d'autres personnes, Numéro Zéro. Qui est justement pour que des personnes qui sont pas, qui n'ont pas fait d'études de cinéma et qui sont pas d'un milieu bourgeois ou je sais pas, enfin qui ne sont pas d'un milieu qui les amène au cinéma naturellement, puissent faire du cinéma. Et du coup, souvent avec Lo, on a des discussions sur. Il me dit, le cinéma, de toute façon, c'est que les bourgeois qui peuvent faire du cinéma. Et du coup, on n'est pas d'accord là-dessus. Est-ce que toi, qu'est-ce que t'en penses?
Je sais pas, je vais pas débattre sur qu'est-ce que c'est qu'un bourgeois, mais moi quand je dis ouvrier, c'est qu'en fait, quand mes parents m'ont demandé mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand, je disais je voudrais faire les beaux-arts. Et mon père me disait, et ma mère aussi d'ailleurs, il disait mais non, tu trouves un boulot à EDF ou au PTT, et ensuite le dimanche tu feras de la peinture. Je les ai écoutés très longtemps en fait, en me disant mais bon, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire. Et voilà, je fais des études, mais ça faisait chier, j'étais très mauvais.
Ça te venait d'où cette idée de vouloir faire les beaux-arts? En Babybel? C'était à cause de ça?
Oui, peut-être.
Et comment t'avais su que ça existait, les beaux-arts d'ailleurs?
Non, mais parce qu'après, à un moment, quand on a demandé qu'est-ce que tu veux faire, je disais la peinture ou faire des trucs artistiques. Même à un moment, je voulais faire des trucs manuels et je me rappelle d'être allé voir un conseiller d'orientation. Avec mes parents, et donc à la fin, le type il dit laissez-le faire ce qu'il veut. Et donc en sortant, mon père, tu vas faire informatique parce qu'il y a du boulot là. Je dis bon, j'ai fait informatique.
Tu vois, Lolo, c'est pour ça que c'est
possible. Tu vois, Lolo, c'est pour
ça. Non, mais t'as raison, Lolo, c'est pour ça que c'est.
Non, moi ce que je trouvais qui était, par rapport à Numéro Zéro Tour, moi ce que j'avais envie de mettre en avant, c'est que je trouve que c'est. Là, c'est difficile. Quand on vient de nulle part pour faire du cinéma, c'est difficile, quoi. Et je trouve que c'est très dommage parce que justement, c'est les gens qui viennent de nulle part, en partie, qui peuvent renouveler les choses. C'est-à-dire qu'ils sont marqués par rien et donc ils se permettent une liberté immense pour soit n'importe quelle catégorie de film, fiction. Donc ils ont une liberté totale et que le gros problème qu'on a en France, c'est que faire sa première fiction, c'est immense. Donc il n'y a pas de renouvellement de la fiction parce qu'on te demande tellement de choses que quelqu'un qui sort de nulle part ne fera pas
un long
métrage de fiction où il en fera un à 55 ans. Quoi. Et ce qui fait que la fiction se renouvelle très très difficilement.
Et puis effectivement, on passe par des écoles de cinéma, on se formate.
Il faut écrire un scénario, on te demande d'avoir un scénariste pour valider ton scénario et si tu n'as pas de scénariste, t'es... Et c'est ce côté-là que moi qui me pose question, là on parle de cinéma bourgeois ou pas, c'est peut-être pas aussi cliché que ça. Mais c'est le fait que quelqu'un, quand il te fait un film, maintenant on a ça avec la caméra numérique, mais les films on les voit pas plus, on les voit sur internet, il n'y a pas d'espace, je sais pas, de festival.
Le cinéma c'est une industrie, mais alors là on va revenir à René. René disait en fait le centre c'est Paris, c'est l'économie, elle est là, mais la créativité elle est ailleurs, quoi.
Ouais, voilà ce que tu disais tout à l'heure.
Le cercle, il est là, mais bon, sans le centre,
on fait rien. Quoi. Alors que le centre peut faire sans la périphérie.
Ben, je crois que si on veut faire un film, il faut d'abord, je sais pas, alors, où étudier les parcours des autres. J'ai cité celui de Robert, donc c'est un parcours. Celui de Philippe Faucon, c'est un autre parcours. Mais toujours, il y a une constante, c'est qu'en fait, il y a quand même des gens qui font le lien, quoi. Pierre Chevalier pour Faucon.
C'est-à-dire qui en soutien, qui
t'aide à
d'accompagnement.
Qui t'aide à prendre ta place, quoi. Parce que c'est très difficile, en fait. C'est un milieu de naze, en fait. C'est vraiment.
Mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Est-ce que j'ai du problème pathologique?
Il y a beaucoup de trucs, si tu veux. Moi, par exemple, j'ai l'échelle, je suis nominé au César, il m'amène au Fouquet's, tu vois. Imagine. J'étais avec une copine. Elle avait mis une robe très serrée, elle n'arrivait pas à marcher vite. Et donc tous les gens au bord, il y avait peut-être 100 mètres de gens qui applaudissaient, qui disaient « Qui c'est ?» Et je disais « Dépêche-toi, dépêche-toi, je ne peux pas marcher ouais, !» C'est plus ça, quoi. Tu vois,
c'est une belle image, quoi. On a fini par être...
Bien, je suis arrivé, le mec, il me saute dessus, il me prend la veste, « Yo !» Tu comprends pas, quoi. C'est des codes que tu n'as pas, quoi. C'est un truc...
Ouais.
Et puis tu n'es jamais en contact avec des acteurs. C'est important, un acteur, quand tu veux faire un film, c'est d'abord, c'est une histoire. Ensuite, c'est un scénario, mais c'est aussi les acteurs. Donc, il faut les rencontrer. Pour les rencontrer, il faut aller à Paris. C'est forcé, quoi. Tu veux pas... Tu écris à eux, ils te répondent même pas, quoi. Voilà, c'est une industrie, le cinéma. Donc, il faut connaître les bases. Comment ça marche.
Le fonctionnement, ensuite, quoi.
Ouais, comment on peut faire sa place et comment on peut se trouver là-dedans, quoi. Donc, ça, c'est pour la fiction. Pour le documentaire, c'est encore plus compliqué parce que c'est plus, plus dans l'écrit, quoi.
Et puis l'économie...
Ce qui est quand même un peu tragique, c'est de voir que aujourd'hui, dans les festivals, bientôt vers le FID, là, par exemple, la majorité des films n'ont pas d'économie. Enfin, ce sont des films primés qui circulent, qui passent dans les festivals. Ils passent pas dans les télés. Ils sont faits sans fric. Et pourtant, avec bien sûr le talent de pas mal d'auteurs qui sont dans des économies de survie.
Après, on est quand même dans un pays qui a un peu d'argent pour le cinéma.
Ouais, c'est ça qui est fou, quoi.
On est quand même mieux lotis que, notamment au Portugal en ce moment, où toutes les subventions sont...
Ok, David, mais il y a une histoire derrière. Enfin, je veux dire, en l'occurrence, le CNCC est aussi à l'origine, de ce qui se passe après en termes de la région. Mais...
L'intermittence, il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas, d'autres n'ont pas. Le cinéma allemand, anglais...
Ouais. D'ailleurs, Alain, tu es intermittent, toi?
Non, plus.
Mais tu as été intermittent?
Oui.
Et pourquoi tu as arrêté?
Parce que j'avais rempli la marmite, ça suffisait, quoi.
Ouais. Attends, on va pas la remplir plus qu'il faut, hein. C'est déjà compliqué de la remplir juste ce qu'il faut.
Non, c'est pas ça. Après, c'est bon. À la limite, je sais pas, tu es riche, bon, t'achètes une Ferrari, puis après, quoi. Deuxième Ferrari avec plus d'options.
Ah, t'as deux Ferrari déjà ?
Non. Moi, je suis en moto.
Si,
Non, mais voilà,
ça marche, t'as pas de deux.
Ça pose plus le problème des riches. Moi, j'ai surtout une envie, j'avais cette envie et je l'ai retrouvée, cette envie que j'avais en allant au CMCC, je l'ai retrouvée là, dans la pâte, en retrouvant ça. J'ai retrouvé le fait, d'un moment, de proposer une idée, de greffer d'autres désirs qui viennent, des potes qui viennent et qui amènent leurs désirs et qui amènent à la fois un contenu, une forme. Voilà, y a des choses.
Ce qui est génial, c'est qu'on est à l'époque du numérique et toi, tu continues à être dans la matière, vraiment. Nous, avec Laurent et David, récemment avec Laurent, on s'intéresse effectivement... On a retouché un peu, on continue à toucher l'argentique, etc. Là, toi, tu es à la pâte à modeler, tu utilises un canon, mais tu es encore dans la matière. Et c'est vrai que j'imagine que tu as toujours eu cette volonté.
La matière d'être... qui résiste.
Et c'est vrai que c'est dans le numérique, c'est un petit peu ce qui pas disparaît, mais y a quand même, on s'éloigne un petit peu de la matière.
C'est sûr qu'imagine quand tu présentes ce film-là en disant c'est un film en pâte à modeler, à l'époque du 3D,
du 2K.
On va être coupé d'une minute à l'autre. Hein, donc
Merci, on arrive à la fin. Merci Alain. Ouais. Merci beaucoup pour ces...
Merci à vous.
Hein. Et Alain, tu es resté à Marseille parce que tu aimes cette ville ?
Et parce que j'ai des enfants et que ça me plaît. Ouais.
Bon, ben voilà.
Je paye cher, mais j'y suis bien.
La liberté coûte cher.
On se retrouve bien. Un petit bonjour à Thérèse. Thérèse Consolo, on te fait la bise.
Jacques Allaire.
Et puis tous les gens du CMCC qui ont traversé cette histoire.
Qu'on aurait aimé avoir ce soir, mais
ça sera peut-être qu'un jour on fera quelque chose ensemble. On sait pas, c'est très compliqué. Marseille 2013 qui court partout. Ça a coupé.
À bientôt.